Bien, bonjour. Nous avons un programme un peu chargé aujourd'hui. J'espère que je pourrai le faire dans les délais requis. Alors, nous avons vu donc au dernier cours un enchaînement de poèmes d'une importance considérable pour comprendre la pensée qui présidait à la compilation du Wakan Loeishu. Il s'agissait de la série sur le thème Bunshi, texte littéraire, œuvre littéraire, mais aussi langue, voire langage dans le contexte, car nous avons vu que le terme alternait avec Gengo et était finalement repris dans l'unique waka final par le japonais Kotonoha, c'est-à-dire Kotoba, les feuilles des mots, les feuilles des paroles, le terme poétique pour la langue en général et l'aspect oral de la langue. Nous avons pu apprécier la complexité de l'agencement des citations qui progressait de la composition littéraire en soi jusqu'à la proclamation de l'équivalence des œuvres chinoises et japonaises, Sugawara no Michizane, étant placée rien moins qu'au niveau de Confucius. Nous pourrions d'ailleurs nous demander pourquoi ce n'était pas l'équivalence plus évidente qui était aussi plus compréhensible entre Po Chuyi, n'est-ce pas, Hakkyoi et Michizane qui était proclamée. Ça va encore plus loin puisqu'on saute directement de Michizane à Confucius. Il se peut tout simplement qu'il n'y ait pas de citation de cette teneur que Kinto aurait pu insérer. Mais il faut reconnaître que cette mise à égalité entre Confucius et Michizane serait presque choquante. Cela aurait été assurément pour un lecteur chinois, bien qu'il y ait eu peu de chance que ce poème de Fujiwara no Atsushige tombe sous les yeux d'un tel lecteur à l'époque. Nous avons vu comment les trois doctrines se trouvent plus ou moins directement impliquées dans l'enchaînement, soit explicitement, soit en hors texte, mais d'une façon bien discernable. Et enfin, nous avons vu le coup final, n'est-ce pas, le waka anonyme proclamant le caractère fallacieux du langage. Il s'agissait d'un poème d'amour détourné qui mêle donc la galanterie d'un premier degré à la remise en question radicale de tout ce qui était venu avant dans la série, et y compris, bien sûr, de la mise en équivalence de Michizane et de Confucius. Et cette remise étant à un second degré de lecture. Mais nous avons vu aussi qu'il pouvait y avoir un troisième degré, celui d'un poème capable de s'autodétruire dans son sens négatif, préparant au contraire la possibilité d'une permutation de la fausseté poétique en la vérité de la révélation bouddhique, permutation shilugais, n'est-ce pas ? Nous avons vu déjà ce terme à deux reprises. Si l'on pense que cette interprétation est par trop partielle et relève d'une sorte de pétition de principe de l'autre part, je ne peux que recommander d'attendre l'avant-dernier cours où nous verrons que le rapprochement esquissé avec les poèmes à thème bouddhique est loin d'être arbitraire. Il ne nous reste malheureusement que 4 cours avant le dernier, qui sera consacré à la conclusion. 4 heures donc pour survoler les près de 40 séries qu'il nous reste à voir. Il faut faire des choix. Et l'on comprendra que nous nous intéresserons en priorité aux thèmes bouddhiques, qui sont fort abondants en comparaison des autres. Il faut même rappeler que c'est le seul thème, le bouddhisme, qui court sur plusieurs séries. Nous avons vu qu'il y avait les noms de Bouddha dans le livre 1, Butsumyo, n'est-ce pas ? Et dans le livre 2, nous avons les temples de montagne, Sanji, Yamanotera, les œuvres bouddhiques, n'est-ce pas ? Butsuji, Hotoke no Koto, les moines, Soho, l'impermanence Mujo. Il faut compter aussi les thèmes qui résonnent en profondeur avec le bouddhisme, comme l'ermitage de montagne, Sangha, que nous allons voir. En plus, il y avait l'ermitage de montagne, le retrait du monde, Kankyo, lu à la non-bouddhique Kankyo, à la bouddhique, ce serait Kenko, n'est-ce pas, Kengo, et surtout la série importante par le nombre de citations que nous allons voir aujourd'hui, bien qu'elle ne soit pas bouddhique à première vue, mais nous n'aurons pas trop à forcer dans le sens du bouddhisme, vous verrez pourquoi. Il s'agit encore une fois d'un thème à appendice. Je vous le lis, n'est-ce pas ? Les résidences d'immortels avec les adeptes de la voie et les ermites. Senka, Tsuketari, Doshi, Inlin. Tsuketari, donc, en appendice, avec, et étant ajouté. Bien évidemment, nous sommes en plein taoïsme, ainsi que le rappelle Eisai, notre commentateur favori, vous le savez, puisque Eisai est le plus systématique, je pense, des commentaires dont nous disposions, et qui serait nous pouvons le situer au XIIIe siècle, bien que ce soit débattu. Pour plusieurs raisons, je pense que le XIIIe siècle va très bien. Donc, ce que dit Heysen, n'est-ce pas ? Les résidences d'immortels sont les palais d'immortels. Senkyu, vous voyez, palais. Et si nous ayons Sen no Iye, mais si, donc Senkyu, les palais d'immortels. Les adeptes de la voie, Doshi, sont ceux qui ont obtenu la voie par les pratiques, Jutsu no Waza no Michi. Ou bien, selon une variante de Heysen, des commentaires de Heysen, ceux qui apprennent la pratique des immortels, Senjutsu au Manabu. Et les ermites, en revanche, les Inrin, qu'on peut écrire aussi avec la clé de l'eau, n'est-ce pas ? Le Rin peut s'écrire non pas avec Nimben, mais avec Sanzuihen. Les ermites sont les sages, les Kenjin, qui se détournent du monde, Yo o Somukite, et se cachent dans les vallées des montagnes, Sankoku, Yamanotani, Sankoku ni Kakure Itaruo Iyu. L'ajout des ermites ne marque pas une rupture dans la rubrique, à la différence de ce que l'on pourrait penser de celle que nous avons vue au dernier cours, où les textes posthumes, vous vous souvenez, Ibun, ne sont pas le complément naturel des textes littéraires Bunshi. Ici, les résidences d'immortels et les Doshi et Inlin sont mis ensemble, sont naturellement ensemble. Cette série est fort longue, puisqu'elle comprend 14 citations, parmi lesquels il n'y en a que trois d'auteurs chinois, mais 10 citations sino-japonaises, donc en chinois classique par des japonais. Et encore une fois, comme la dernière fois, un seul waka de conclusion. Ici encore, nous pourrions être surpris de voir un courant d'idées qui semblait si chinois et si peu japonais représenté avec une telle asymétrie en faveur des auteurs japonais. Mais nous savons que les lettrés sino-japonais de l'époque de Heian étaient bien plus versés dans les sciences taoïstes qu'on ne se l'imagine généralement. En particulier, les pratiques de longue vie, le Rentan Jutsu, furent cultivées de façon plus ou moins réaliste par certains. Nous en avons en tout cas un certain nombre, c'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas de lire les recettes, mais de les appliquer aussi. Nous en avons en tout cas un certain nombre d'attestations de l'intérêt savant donc, pour ce domaine, par exemple dans le cas de Minamoto no Toru, qui a été étudié par Bernard Franck, le créateur du jardin Kawara no In. Nous avons d'ailleurs un très bon exemple de l'influence du taoïsme au Japon dans le Wakan no Eshu même, avec la très courte série sur le Koshin. Cette pratique d'origine indubitablement taoïste, qui consiste à ne... Et donc que l'on lirait Koshin, n'est-ce pas ? Kanoe Sado, le premier signe. Ko se lit Kanoe en lecture Kun et Saru, le second, en lecture Kun aussi. Donc c'est une pratique indubitablement taoïste qui consiste à ne pas dormir pendant la nuit du 57e jour du cycle sexagésimal, afin d'empêcher les trois vers, Sanshi, n'est-ce pas, Mitsu no Kabane, littéralement les trois cadavres. D'ailleurs, l'iconographie taoïste les présente de façon assez horrible. Donc, ces trois vers qui logent dans le corps humain, on les empêche donc de quitter le corps de l'individu qui les héberge, puisque c'est la nuit où ils peuvent monter au ciel et dénoncer les mauvaises actions de leur hôte auprès de l'empereur céleste Tente. En même temps, cette série sur le Koshin est singulière par sa brièveté, puisqu'elle ne comporte que trois poèmes, dont le waka final, qui plus est. Ce waka final n'a d'autre rapport avec le Koshin que le jeu de mots qu'il énonce. Je crois que je ne l'ai pas mis. Je vous le dis très, 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 très brièvement. Donc, il y a un seul waka à la fin, et ce waka dit... Okinaka no Ezaru. Je pourrais le passer, mais je vais quand même vous le dire parce que j'ai dit ce dont il s'agissait. Donc, Okinaka no Ezaru Tokinaki. Ensuite, Tsuribune wa Amaya Sakidatsu, Uoya Sakidatsu. Alors, le premier vers, c'est Okinaka no Ezaru Tokinaki. Tsuribune, le bateau de pêche. Ezaru Tokinaki, pour lequel il n'y a jamais de temps où il n'attrape, pour lequel il n'y a pas d'époque où il n'attrape pas, sous-entendu, du poisson, Okinaka, dans la mer. Et si vous lisez les deux premiers vers, Okinaka noe zaru tokinaki, vous voyez qu'il y a naka noe zaru. Naka noe zaru. Donc c'est un simple jeu de mots. Ce poème ne se trouve pas dans les recueils. Il semble, d'après quelques commentateurs modernes, que ce soit Kinto lui-même qui ait bricolé le poème simplement pour boucher le trou, si vous voulez. Donc nous n'avons pas le temps de réfléchir à cette curieuse façon de célébrer ces pratiques, mais nous voyons que le taoïsme est bien présent en tant que tel dans ce recueil. Et bien plus ici, évidemment, dans cette rubrique du Kōshin, puisque c'était une pratique qui était répandue dès l'époque de Heian, non seulement dans les milieux lettrés, mais aussi largement dans la population, comme elle le sera plus tard, encore à l'époque d'Edo et encore maintenant. Enfin, maintenant, je parle du Japon d'il y a 30-40 ans, n'est-ce pas, où c'était encore dans certains temples, puisque les Kōshin, Zuka, les lieux de culte à ces trois vers se trouvaient souvent dans les temples bouddhiques, et c'était encore une fête relativement populaire. Mais revenons à nos ermites. Le terme de doshi ne signifie pas forcément un ermite taoïste. Cela pouvait désigner tout adepte des sciences occultes ou de la divination, qui pouvait aussi monnayer ses talents. Et aussi le moine taoïste qui vivait en communauté dans un taoguan, dookan, n'est-ce pas, les monastères taoïstes. Et ensuite, celui qui se consacre à ses pratiques à l'écart de la société. Le terme de inrin, en revanche, désigne plus spécialement l'ermite, voisin du terme inshi. Ceux qui participent au séminaire se souviennent que le Mumio, l'auteur du commentaire intitulé Wakan Roeshu Chusho, se qualifie lui-même de Inshi, n'est-ce pas, de lettré caché. C'est comme lieu de résidence du Doshi et des Inrin qu'il faut envisager le sens de Senka, donc Sennin no Ie, les demeures d'immortels. Il peut être synonyme d'autres termes, surtout Senkaku et Senkyu, on les a vus tout à l'heure, vous les avez ici aussi. Mais il peut désigner simplement, malgré le nom ronflant de palais, n'est-ce pas, de palais, de pavillons superposés, kaku, il peut simplement désigner de simples ermitages dont l'occupant se consacre à la pratique contemplative, et pas forcément à cultiver les procédés alchimiques de longue vie du genre Naitan Jutsu, c'est pas que nous avons ici. Nous pouvons distinguer deux aspects dans ces demeures. Un aspect réel, et vous verrez qu'on joue sur cela dans le tout dernier poème, donc un aspect réel qui est celui d'une modeste cabane dans les montagnes, et un aspect réalisé par l'esprit, un aspect élaboré par la méditation du pratiquant, qui transforme la cabane de chaume en splendide palais céleste. Ce sont des créations spirituelles. Donc. C'est cette transformation psychique de l'ermitage que rendent des peintres tels que Chiu Yin, n'est-ce pas, Shui, qui est mort en 1552, donc c'est l'époque des Ming, c'est tardif. Mais c'est ce genre de peinture où vous voyez donc l'ermitage, le saint. Le titre chinois, donc c'est Senzan Rōkaku-zu, n'est-ce pas, le palais et Rōkaku, donc les palais. Nous allons revoir les deux termes dans les montagnes où pratiquent les immortels. Il faut donc avoir cela à l'esprit quand nous lirons ces poèmes. La première citation est de Yuan Zhen, le compagnon de Po Chuyi. Dans la vie poétique contemplative, dont la disparition, vous vous en souvenez, l'avait privé d'un alter ego avec qui il pouvait évoquer son désir d'une autre vie en retrait du monde et de la politique. Il s'agit d'un distique tiré d'un huitain dont un autre distique figurait précédemment dans la série Nuée que nous n'avons pas pu aborder. Il est intitulé « Vivre caché », la vie cachée, « Résider à l'écart », « Yusei », et il proclame l'amour du rustique, yajin, n'est-ce pas, celui qui n'est ni courtisan ni fonctionnaire. Donc cet amour du rustique pour la retraite à l'écart entre les pins et les monts. Le distique cité dans la série sur la nuée, je vous l'ai mis en premier, je ne vous ai pas donné la transcription, Simplement, donc je vous donne simplement la traduction pour que vous l'ayez en tête. Tout le long du jour à contempler les nuages, j'ai l'esprit exempt de liens, sunagalase. J'ai l'esprit exempt de liens. Et de temps à autre, en regardant la lune, la nuit se fait enfin paisible. Vous voyez le dernier caractère, Shizuka Nodoka. Le caractère paisible, donc Kan, qui qualifie éminemment la vie solitaire, ainsi que nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, et c'est dans le composé Kankyo, n'est-ce pas, qui fait l'une des rubriques qui arrivera plus tard, mais que nous n'aurons pas le temps de voir, malheureusement. Alors que les quatre premiers vers du poème pouvaient passer pour une description générique, en quelque sorte, de la vie solitaire, du retrait littéraire du monde, le distique qui est cité ici, dans cette série, sur les demeures d'immortels, est plus précis. Donc vous avez cette fois la transcription et voici la traduction que je vous en donne. Alors évidemment, c'est toujours délicat de traduire ce genre de choses de façon un peu réaliste. Le monde dans la cruche est hors de notre univers. Les honneurs dans le rêve ne durent que du matin au soir. Ces vers feraient le délice des amateurs d'exotisme par leur obscurité et leur caractère d'un autre pays. Mais il renvoie à deux anecdotes bien connues de la tradition littéraire chinoise. Le premier est tiré d'un recueil de vie d'immortels, le Shinsenden, Shenxianzhuan, en chinois, attribué à l'illustre Gehong, Katsuko, Kakko, comme on dit souvent en japonais, vous avez tout cela ici avec les dates, que nous avons déjà indirectement rencontré comme l'auteur du Paobutsu, le Hobokushi. Le Hobokushi, oui, sorte d'encyclopédie taoïste plusieurs fois mentionné par Eisai. Le neuvième des 10 livres du Shinsenden s'ouvre sur la vie de Hugon, Koko en japonais, le seigneur de la cruche. Ça fait un peu donc quichotesque, n'est-ce pas, le seigneur, le prince de la cruche, le sire de la cruche, et de son disciple Fei Changfang, Hi Chobo. Je reviens dans un instant sur le nom de cruche. Je ne sais pas ce qui est le moins inélégant, n'est-ce pas, de traduire cruche ou plus exactement par calebasse ou gourde, n'est-ce pas, le prince de la gourde. Mais voilà. En tout cas, je vais vous donner ici la relation qu'en fait Eisai de cette histoire, puisqu'elle est au plus proche de ce qui étaient les conceptions japonaises de l'époque de Heian. Et elle est de toute façon à peu près conforme au Shinsenden, il y manque simplement quelques détails. Il y avait autrefois au marché de Chouan, de Chang'an, donc en Morokoshi, en Chine, un vieillard qui vendait d'ordinaire des médicaments, donc il faisait de la vente des médicaments son métier. D'apparence étrange, il ne se livrait jamais au marchandage. C'est quelque chose qui semble assez caractéristique pour mériter d'être noté dans un recueil sur les personnages extraordinaires, n'est-ce pas ? Il ne marchandait pas avec le client. Personne ne savait qui il était. Il y avait alors un certain Hichobo, donc Fei Changfang, originaire de Jonan, tout cela n'a pas beaucoup d'importance, pas, qui était inspecteur des prix, celui que nous avions en Occident aussi, n'est-ce pas, il inspectait, il faisait attention à ce que les prix n'augmentent pas trop, etc. Donc il était inspecteur des prix sur le marché. Du haut de la tour de garde, le Rho, n'est-ce pas, que à côté de la tour de la cloche, vous aviez la tour de garde, où il pouvait surveiller l'ensemble des choses, il voyait de loin que le vieillard, qui portait à la ceinture une cruche, une calebasse plus exactement, à la tombée du jour, à l'insu de tous, il pénétrait d'un saut, Odori Inu. Chobo, qui fut souvent témoin de la scène, comprit qu'il ne s'agissait pas d'un être ordinaire. Il lui rendit donc visite. Il lui offrait des mets variés avec respect et déférence, ce qui faisait un immense plaisir au vieillard. Une année s'étant ainsi passée, le vieillard lui révéla : vous avez la marque caractéristique sceau, n'est-ce pas, le sceau de Sugata. Vous avez la marque caractéristique des os d'or, kinkotsu, de Ogon no Hone. Vous serez capable d'étudier la voix des immortels. Venez me voir à la tombée du jour, quand il n'y aura personne. Chobo ayant fait selon ses instructions, le vieillard lui dit « Suivez-moi » et sauta dans la calebasse. Chobo sauta à sa suite. Et dans la calebasse, il y avait un ciel, une terre, un soleil, une lune. Il y avait des palais et des résidences, Kyuden Rōkaku. C'est le Rōkaku que nous avons vu tout à l'heure dans la préface, dans le titre de la peinture de Chu Ying. Des milliers de serviteurs s'occupaient avec le plus grand respect du vieillard. Chōbō, malgré l'abondance des plaisirs, ne pouvait oublier son pays natal. Le vieillard, s'apercevant de sa nostalgie, lui dit « Si vous voulez vous en retourner, vous n'avez qu'à grimper avec ceci. » Et il lui donna une perche de bambou. Chōbō y grimpa et revint à Chōan. Il jeta sa perche dans un étang et se transforma en un dragon vert, Seidyo, lu d'habitude Seidyo, bien que Seidyo soit la vraie lecture Kan, Kan, qui s'élança, donc transformé en un dragon vert qui s'élança vers le ciel. Bon, je ne reviens pas sur les dragons, nous n'aurions pas le temps. Il est remarquable qu'après ce long exposé sur le Seigneur à la cruche, Esai ne se sente pas obligé d'expliquer quoi que ce soit du second vers sur le rêve, n'est-ce pas, dans le rêve, le statut de la renommée ne dure que du matin jusqu'au soir, comme dirait Ronsard. C'est très probablement parce que chacun était censé comprendre l'allusion. Il est vrai qu'encore maintenant, tout lecteur japonais peut avoir une idée de ce dont il s'agit, même sans connaître l'expression qui résume l'histoire. Il s'agit d'un récit fantastique de l'époque Tang, le rêve de Handan, n'est-ce pas, Kantan no Yume, du nom d'une ville de la province du Hebei, où est située l'étrange aventure d'un étudiant malheureux aux examens, du nom de Rosei, qui, lors de son voyage de retour, passe la nuit dans cette localité. Dans une auberge, il fait la connaissance d'un doshi, d'un pratiquant taoïste, qui lui prête son repose-tête, d'où le titre de ce récit bien connu, Chinchuki, Makura no Naka no Ki, sur lequel il s'endort, son repose-tête. Tandis que, alors évidemment, on peut l'appeler le récit de l'oreiller, mais ce n'est pas tout à fait un oreiller non plus, il n'y a pas d'empêchement à le traduire ainsi. Il s'endort pendant que l'aubergiste fait cuire du millet pour le repas du soir. D'où l'expression que l'on a souvent pour cette histoire, n'est-ce pas, Koryo mu, le Koryo no yume, le rêve du millet, ou bien Koryo issui, la cuisson du millet. Surviennent alors des messagers impériaux qui l'emmènent à la capitale, où il est embarqué dans un cursus honorable, je n'ai même pas tenté de résumer l'histoire, qui le mène au plus haut du pouvoir, jusqu'à épouser une princesse impériale. Victime d'un complot, il manque d'être exécuté, puis est innocenté, pour finalement se réveiller, alors que le millet est encore à cuire dans le chaudron de l'aubergiste. Dans les deux histoires, nous sommes dans l'univers taoïste, avec des doshi pour protagoniste dans un cas et puis pour personnage important de l'autre. Il est d'autant plus intéressant de poursuivre la lecture du commentaire d'Esai à propos du Seigneur de la Cruche, puisque nous sommes vraiment dans le taoïsme le plus pur. Il ne retient du second vers que l'évocation générale du monde comme rêve. Pour ajouter que cette comparaison, donc Esai, n'est-ce pas, provient des Naiten, des textes bouddhiques. Et il termine, contre toute attente, cette longue digression taoïsante par une citation du traité de rien que conscience, le Jo Yuishkilon, qu'il appelle ici Yuishkilon, de Vasubandhu et de Genjo, de Xuanzang, n'est-ce pas ? Je ne reviens pas sur la composition de ce texte. Et cette citation, vous l'avez ici, je vous la donne. « Tant que l'on n'a pas obtenu le vrai éveil, on demeure constamment dans le rêve. C'est pourquoi le Bouddha appelle notre condition la longue nuit des naissances et des morts. » Cet ajout des Esai, que nous situons donc au début de l'époque de Kamakura, est important en ce qu'il montre comment les lecteurs lettrés japonais sont pour ainsi dire naturellement portés à bouddhiser le texte qu'ils ont sous les yeux. Et nous avons d'autant moins de difficultés à estimer qu'il ne s'agit pas ici d'un simple caprice individuel, que nous avons déjà rappelé la préface de Mumio et la façon dont il situe le recueil dans un dialogue entre les trois doctrines. Au moment même où l'élément taoïste est le plus éclatant, le commentateur tient à le diluer dans le bouddhisme, à rétablir la hiérarchisation des trois doctrines, telle que nous pouvons le voir dans le Sango Shiiki de Kukai, par exemple, qui est emblématique de la chose. Nous sommes à présent habitués aux enchaînements poétiques qui se déroulent dans le Roeishu et aux subtiles élaborations du compilateur. Nous sommes donc ici, tout d'abord, dans la phase de développement du thème initial. Nous pourrions d'ailleurs tenté de vérifier l'hypothèse, j'y reviendrai tout à l'heure, selon laquelle ces déroulements, ces enchaînements, se dérouleraient selon le schéma quadripartite bien connu qui rime les poèmes chinois, et d'ailleurs qu'on a aussi plaqué sur les poèmes japonais. C'est la première ligne, n'est-ce pas ? Kisho Tenketsu. Ça désigne les quatre vers ou bien les quatre distiques qui forment un huitain, n'est-ce pas ? Vous avez d'abord le début, qui, ensuite sho indiquant le prolongement du début, c'est-à-dire le maintien de la note du début, ten, hirugaesu, vous vous souvenez, nous avons vu, c'est ce que nous avons vu comme terme fondamental de la transformation du poème futile en poème bouddhique, utilisé par Poju-i et repris dans toute la tradition japonaise. Ici, donc, ça indique un retournement, un coup de théâtre ou bien une modification de l'angle de vue du poète qui donne une nouvelle vision de l'ensemble de la situation dans laquelle il est. Et ketsu, musubi, parfois on dit raku aussi, n'est-ce pas, qui est la conclusion qui va se déduire des deux grandes parties précédentes, enfin une partie mineure et une seconde grande partie. Le poème initial, donc, ici, serait le ki, les citations chinoises sho, les sino-japonaises ten, et le waka étant le musubi. Cette structure était particulièrement évidente dans la série sur les textes littéraires, c'est pas ce que nous avons vu la dernière fois. Nous revenons maintenant au sujet, mais gardez cela en tête. Nous pouvons, je pense que ça peut donner quelques indications sur la façon de lire ces enchaînements. Le second poème, donc, est de Poju-i, et il accentue les traits du taoïsme opératif qui était dans le premier, de Yuan Zhang, donc son compagnon de vie contemplative. Il porte sur un thème général bien connu de la poésie chinoise. L'auteur rend visite à un ermite pour partager du vin ou une conversation épurée, n'est-ce pas, c'est éteint, mais il ne le trouve pas. Le sage sera parti plus loin dans les montagnes cueillir les simples, les herbes médicinales, nécessaires à sa pratique. Les deux vers de ce huitain, ici retenus, sont les plus concrets et marquants. Les deux qui le précèdent ne font que marquer le caractère solitaire de la demeure. Je vous donne entre crochets c'est le distique non donné ici, mais que je vous indique pour l'atmosphère. Regardant la cour, il ne reste qu'un couple de grues blanches. Passant la porte, je n'y vois que le seul pin verdoyant. Vous voyez le pin, la grue blanche, les symboles tout à fait de l'ermite taoïste. Vient alors le distique, que je vous donne ici, Yakuro ni Hiyarite, etc. Le fourneau alchimique est allumé, est au feu allumé. Le cinabre doit s'y cacher, Masani Fukusubeshi. Le pilon à Mika, sans qu'il y ait personne, se meut tout seul grâce à l'eau. Le poème nous suggère en deux vers très concrets ce que peut être le laboratoire de l'adepte de l'alchimie taoïste, mélangeant le mercure au mica afin de réaliser le cinabre, n'est-ce pas, le tan, qui lui assurera l'immortalité. Et vous voyez la description d'une mécanique. On en trouve des illustrations sur l'internet, n'est-ce pas, de ce pilon mu par l'eau. Enfin, c'est un mécanisme très simple et qui permettait donc à l'ermite de continuer son œuvre lorsqu'il n'était pas là. Le poète nous suggère en deux vers très concrets ce que peut être le laboratoire. Pardon. Mais en même temps, donc, après cette description concrète du laboratoire, il montre à son lecteur que ce laboratoire est opératif en l'absence de celui qui en est l'âme. Poju-i donc suggère que l'adepte a mené à bien son projet, qu'il a bel et bien produit le remède d'immortalité et qu'il a quitté ce monde. Là encore, en suivant un schème bien connu des vies de taoïstes, les adeptes réalisés ne meurent pas, mais se dérobent au monde pour mener leur vie immortelle loin des indiscrètes. Évidemment, il y a ici une manipulation de Kinto, c'est l'impression qu'a le lecteur, mais cette impression est accentuée par la citation tronquée, telle qu'elle figure dans le Roeshu, car le dernier distique, qui n'est pas donné ici, fait clairement allusion au retour de l'ermite. Je vous le donne en bas, n'est-ce pas ? Je voulais l'interroger sur le sceau de l'unité des trois, le Sandoké. Combien de jours me faudra-t-il attendre pour être à l'aise avec lui ? Pojiyi cite ici explicitement l'un des plus célèbres traités alchimiques chinois, attribué traditionnellement à Wei Boyang, Gi Hakuyo, dont je vous donne le titre complet ici. Fabrizio Pregadio, qui en a fait une traduction récente, appelle le traduit par « The seed of the unity of the tree ». C'est comme ça que je l'ai repris. Et vous voyez donc qu'en tronquant légèrement le poème de Pojiyi, Quinto nous met dans l'ambiance de l'absence du taoïste, c'est-à-dire l'absence du taoïste parce qu'il est réalisé. C'est quelque chose qu'il va avoir aussi, que nous devons garder à l'esprit. Et vous voyez encore une fois combien les poèmes s'enchaînent sur deux niveaux, le niveau exprimé et le niveau sous-jacent. Tant par ses allusions précises au travail concret de l'adepte taoïste, du doshi qui vise à accéder à un état transcendant esquissé dans la première citation, que par sa référence explicite à un texte fondamental, cette citation est importante. Elle montre l'autre aspect de la carrière de l'adepte, qui n'en est pas encore à résider dans les palais fantastiques, du genre de ceux qui sont contenus dans une calebasse. Cet aspect plus concret de la vie du taoïste est prolongé dans la troisième citation, qui a pour auteur Wen Tingyun, Ontein en japonais. Donc, poète du IXe siècle, plus jeune que Pojiyi. Nous n'avons pas le reste du poème, mais ainsi que nous le dit Eisai, ce distique nous décrit l'atmosphère, Keiki, de la résidence d'un immortel, Senka. Et c'est ici la demeure que se choisit le poète lui-même. Voici cette citation. « Au fond des montagnes, je cueille les pousses de fougères, sans que les nuages ne me fuient. Dans mon antre, j'ai planté un arbre qu'une grue a découvert en premier. » Repéré, pris connaissance en premier. Mazushiru. Les commentateurs anciens, sauf Eisai d'ailleurs, curieusement, et modernes aussi, se rejoignent pour reconnaître dans la mention de la cueillette des fougères, Warabi, n'est-ce pas, une allusion aux célèbres figures historiques et légendaires que sont Poyi, Hakui en japonais, et Shuchi, Shukusei, tels que les décrivent les mémoires historiques de Sima Qian. Donc ces deux personnages, un peu avant l'an 1000 avant Jésus-Christ, alors que la dynastie des Shang, Shou, n'est-ce pas, s'achevait dans la corruption et qu'un ancien vassal allait fonder la nouvelle dynastie des Shu, Zhou, les deux frères refusèrent de recevoir quoi que ce fût d'un régime qu'ils jugeaient illégitime malgré son renouveau moral. Ils se retirèrent dans les montagnes, ne vivant que de pousses de fougères, jusqu'à ce que quelqu'un vienne leur faire remarquer que les plantes aussi appartenaient à l'État et donc au souverain illégitime. Et ils se laissèrent alors mourir de faim. C'est un thème extrêmement connu dans toute la littérature chinoise et japonaise, vous l'avez constamment. Et l'un des derniers, il y en a un avant-dernier moins connu, mais le grand écrivain chinois Lu Xun, n'est-ce pas, Rojin en japonais, avait fait dans son recueil qui s'appelait Koji Shimpen, n'est-ce pas, les nouvelles remaniements des histoires anciennes, avait repris cette histoire en se montrant assez peu révérencieux à l'égard des deux protagonistes. Donc ce premier vers se réfère au retrait du monde pour des raisons politiques, sans arrière-plan religieux. Le second, en revanche, avec l'utilisation du terme « entre », n'est-ce pas, « do », « hora » en japonais, ou « caverne », évoque directement l'immortel taoïste, nous le reverrons tout à l'heure, dont la grue est la monture de prédilection, la grue blanche. Quant à l'arbre planté par le nouvel occupant, nous pouvons y reconnaître un pin où la grue résidera, auprès duquel la grue résidera. Après ces trois citations chinoises, grâce auxquelles s'instaure ce que nous pourrions appeler avec Eisai l'atmosphère donc, qui règne autour des demeures des immortels, nous avons une avalanche de 10 citations sino-japonaises, chose assez inhabituelle, qui vont développer encore les prémices chinoises et que nous pourrions diviser très grossièrement en deux classes. Nous avons d'une part, au tout début, des citations descriptives qui élaborent sur l'aspect fantasmagorique des résidences et du monde des immortels, le Senkyo, n'est-ce pas, le monde des immortels. Et d'autre part, celles qui reprennent le second thème de la première citation et que nous pourrions appeler le paradoxe temporel. Ce paradoxe temporel est assurément l'une des constantes de la littérature taoïste. Et nous le voyons ici pris et repris, manipulé avec délice par les poètes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais disons dès à présent que ce qui est ici présenté comme caractéristique du taoïsme se trouve aussi dans un texte aussi bouddhique que peut l'être le Sutra du Lotus, où nous avons justement au premier chapitre, celui du prologue, Johon, un remarquable exemple de paradoxe temporel. Il y est dit en effet que l'éveillé, appelé luminaire du soleil et de lune, Nichigato Myobutsu, Nichi, n'est-ce pas, Nichi Tosuki, Tomoshibi et Myo Akiraka, exposa en un passé lointain le Sutra du Lotus à une assemblée de disciples qui l'écoutèrent sans se lasser pendant 60 âges cosmiques. Il s'agit, comme vous le voyez, d'âges cosmiques mineurs, shogo, mais quand même, ça fait très long. Et il restait immobile en corps et en esprit. Et, précise le Sutra à la fin, n'est-ce pas, Jikkyo no Gotoshi, Oiyu. Pour eux, écouter la prédication de l'éveillé n'avait duré, eût-on dit, que l'espace d'un repas, Jikkyo. Chose curieuse, mais cela nous emmènerait trop loin que de l'examiner plus avant, ce détail ne se trouve pas dans l'original sanskrit du Sutra du Lotus, ni dans la traduction ancienne de Dharmaraksha, Jikku Hogo, de 286. Ce serait donc un ajout de Kumarajiva aux alentours de l'an 400. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'expression Jikkyo, n'est-ce pas, le temps d'un repas, est fréquente dans les textes bouddhiques pour désigner un temps très court. Mais ici, c'est le paradoxe temporel, n'est-ce pas, d'une très longue, de 60 âges cosmiques qui se passe comme le temps d'un repas, qui ne se trouve pas dans les sutras bouddhiques indiens. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, voyons maintenant très rapidement ces citations, car le temps commence à nous manquer. Alors, la première citation, qui est donc la quatrième de la série, est en réalité reliée à la seconde, car elles proviennent toutes deux d'un même texte de Miyako no Yoshika, ici abrégé en To. Vous avez un grand lettré du IXe siècle. Deux phrases en avaient déjà été citées dans la série sur les grues, où grues et dragons étaient mis en parallèle. Le texte fort long est consigné dans le Honshō Monzui, où il est intitulé ici en abrégé, vous l'avez en bas, Shinsen Saku, ou Shinsen Sakubun, dissertation sur les immortels, qui constitue une longue description de ses adeptes en réponse à une question posée par un fonctionnaire de la cour. Comme les deux citations sont assez loin l'une de l'autre dans le texte d'origine, nous pouvons les garder ici séparées. Elles ne s'enchaînent pas, n'est-ce pas ? Enfin, sauf qu'elles, vous verrez de quelle façon. Voyons tout d'abord la première. Flottant en nuages, alors je reprends les trois calebasses, vous verrez pourquoi. Flottant en nuages sur les trois calebasses, à 75 000 lieues fendant les flots, sur les cinq châteaux s'élève la brume, les 12 palais perce le ciel. Citation certes difficile à traduire élégamment et qui exige quantité de gloses. Et ça, il nous y aide, en rappelant des faits donnés dans le Shuijin, le Shuiki en japonais, Nokoru mono, Nokotta mono Hiroo, n'est-ce pas, Nokoru Shuiki, un traité sur l'histoire légendaire écrit par Oshinen Wang Zhenyan au IVe siècle. Après Jésus-Christ. Les trois calebasses, Sanko, sont les trois légendaires, sont les trois groupes, en tout cas, les légendaires îles des immortels, qu'on appelle le plus souvent les montagnes divines, Shinsan, que vous avez ici, n'est-ce pas, Hojo, Horai et Eishu, qui sont donc situés à 75 000 lis de lieues chinoises, n'est-ce pas, donc ce qui fait une trentaine de milliers de kilomètres quand même, de la Chine, donc dans la mer de l'Est, Dokai, ou bien dans la mer, le golfe du Pohai, n'est-ce pas, Bokai, selon les sources. Alors, tandis que les cinq châteaux et les 12 palais, ou tours, sont, eux, situés dans une autre région, c'est, d'après les mémoires historiques de ce Matsien encore, c'est dans les Kunlun, que nous avons déjà vu dans des poèmes précédemment, ces montagnes qui séparent le Tibet du bassin du Tarim. et ils auraient été fondés par l'empereur jaune, donc Kohoté, n'est-ce pas, que l'on connaît comme l'un des pères du taoïsme. Ce bref rappel des zones d'habitation des immortels aux marges du monde, donc faites par un japonais, est complété par l'autre citation de Yoshika, qui se réfère cette fois à un autre texte très célèbre. Voyons d'abord la citation. « Des chiens étranges ou fantastiques aboient parmi les fleurs. Leur voix s'écoule comme de l'eau, n'est-ce pas, Nagaru. Leur voix suit le courant d'eau le long de la grève, le long de la grève au pêcher rouge. Un vent violent fait trembler les feuilles. Leur parfum se répand à travers la forêt d'acacia violet. Shike, Murasaki no Katsudan. Les couleurs fantastiques accentuent l'étrangeté du lieu. Sans que Eisai ait besoin de nous le rappeler, nous savons que nous sommes dans le monde décrit dans la célèbre relation de la source aux fleurs de pêcher, le Tōkagenki, le Taohua Yuanzi, souvent abrégé en Togenki, de Tao Yuanming, Toemme ou Toosen en japonais. Texte daté de 421 après Jésus-Christ. Bien que dans la relation de Toosen, il ne s'agisse pas d'immortels à proprement parler, mais de Chinois qui avaient voulu échapper au désordre de l'unification de la Chine sous les Qin, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc 700 ans auparavant, et plutôt de leurs descendants d'ailleurs, parce qu'il n'est pas dit qu'ils vivent ces 7 siècles. Mais ce sont donc des gens qui vivent à l'écart du monde. Ils ont voulu échapper à la situation politique. Mais il est vrai que la tradition poétique chinoise et japonaise, poétique et narrative, a eu tôt fait de les transformer en immortels taoïstes, alors que ce n'était pas cela à l'origine. Alors que la première citation s'arrêtait aux détails physiques et géographiques des résidences des immortels, l'implication de la seconde, bien que non explicite mais en hors-texte, est bien évidemment celle d'un endroit où le temps s'écoule différemment du monde ordinaire. Les habitants de la source au péché n'ont aucune idée de l'histoire chinoise depuis les Qin. Je ne vous rappelle pas cette histoire, enfin c'est l'histoire de la source au péché de Tao Yuanming, donc c'est quelqu'un, un pêcheur, qui remonte le courant d'une rivière pour trouver du poisson. Il arrive dans un bosquet de pêchers aux fleurs rouges, il y découvre un chien, ce chien l'amène à une caverne et là il découvre les descendants de ce peuple, ce peuple caché dans les montagnes. Il le prie, le peuple caché le prie de ne rien dire, le laisse repartir en le priant de ne rien dire à ses compatriotes. C'est évidemment la première chose que fait le pêcheur lorsqu'il revient au village. Ils veulent retrouver l'endroit, mais ils ne peuvent pas. Ils s'égarent. Les gens se sont retirés. Je voulais aussi vous faire remarquer que ce texte est très intéressant dans la mesure où, selon un sinologue anglo-saxon des années 80, je crois, et c'est une thèse qui a été reprise au point que maintenant la dernière traduction du Taohua Yuanzi porte ce titre, ça serait sans doute l'origine du mythe de Shangri-La, du mythe littéraire occidental de Shangri-La, qui est apparu dans ce roman des Horizons perdus des années 30, qu'on a souvent attribué à une espèce d'orientalisme occidental. En réalité, l'auteur de Shangri-La, qui s'appelait, je crois, Hamilton, ou quelque chose comme ça, a repris ce thème chinois ancien. L'aspect temporel est renforcé par la citation suivante, qui est tirée d'une préface consignée dans le Honshō Monzui, encore, et due à Oe no Asatsuna, qui est mort au milieu du Xe siècle. Faite pour un poème dont le thème fut donné par l'empereur Murakami, qui était très jeune alors, lors d'une réunion poétique à la résidence de Nijōin. C'est ce que vous avez dans le titre qui est donné après la translittération. Le thème du poème n'a rien à voir avec ce qui est relaté par Oe, puisqu'il s'agissait de décrire les fleurs qui arrivent en volant, en désordre, sur les habits de danse. C'est un thème poétique tout à fait visuel. Voici en tout cas la citation. Et ce texte sera repris dans la rubrique aussi Kankyo, n'est-ce pas, la résidence, le retrait du monde. Voici la citation donc. « Entrer par erreur dans la résidence des immortels, bien que je n'y fusse que l'hôte d'une demi-journée. Hanjitsu. Hanjitsu plutôt que Hannichi, n'est-ce pas ? Puisque nous sommes dans un. Vous voyez que la lecture est Hannichi no kaku, donnée par la plupart des textes, mais il faudrait lire si nous étions vraiment, si nous étions vraiment sérieux, n'est-ce pas ? Nous lirions Hanjitsu no kaku en lecture kaon complète. Donc, entrer par erreur dans la résidence des immortels, bien que je n'y fusse que l'hôte d'une demi-journée, peut-être qu'à mon retour au pays natal, Kyuri, c'est-à-dire chez moi, je rencontrerai mes petits-enfants à la septième génération. Ainsi que le remarque Eisai, Oe décrit ses sentiments, Jukai, n'est-ce pas, d'embarras, à pénétrer dans le palais du Nijōin, donc au milieu d'une telle, de la fleur de la noblesse de l'époque. Et il s'imagine plaisamment dans le rôle du protagoniste d'une autre anecdote célèbre concernant la rencontre d'un homme ordinaire avec des immortels. Cela se passait sous le règne de l'empereur Gen des Shin, n'est-ce pas, donc au IIIe siècle à peu près après Jésus-Christ, avec un homme du nom un personnage du nom de Wangzhe, Oshitsu, qui s'était rendu avec sa hache dans la montagne afin d'y couper du bois. Il y trouva deux jouvenceaux, Warawa, Doji, en train de jouer au go. Il posa sa hache et les regarda jouer. Mais à la tombée du jour, étonné de l'heure tardive, il voulut reprendre sa hache pour s'en retourner, mais il découvrit qu'il était pourri et inutilisable. Il repartit tout abasourdi, sans couper du bois, bien sûr, et son étonnement ne fit que croître en revenant au village où il ne reconnut plus rien. S'expliquant avec les habitants, il finit par comprendre que son séjour dans la montagne avait duré bien plus qu'une après-midi et que les gens qu'il rencontrait étaient ses descendants à la septième génération. Nous avons ensuite, c'est évidemment le thème de l'histoire bien connue de Rip Van Winkle, n'est-ce pas, de Washington Irving, qui est repris certainement d'un thème sur lequel nous reviendrons peut-être à la fin si nous avons le temps. Nous avons ensuite un enchaînement de sept citations sino-japonaises, ce qui est très exceptionnel, qui se succèdent rapidement et qui portent toutes non plus sur les résidences, mais sur les immortels et les ermites, et plus singulièrement sur leur absence. Car un immortel réalisé, nous l'avons déjà dit, n'est plus là. Il vit à la lisière du monde des hommes, dans des résidences qui ont des aspects variés, selon qu'on les considère du point de vue vulgaire ou du point de vue de l'homme accompli. Mais une fois qu'il a atteint son but, il s'envole pour les îles en Kalbas, comme nous avons tout à l'heure, ou bien au Kunlun, dans des endroits tout à fait inaccessibles, désormais. Dans ces citations, donc, l'accomplissement de la destinée de l'adepte est démontré par le fait qu'il a disparu. Mais vous allez voir encore que c'est très subtilement modulé. C'est ce que l'on trouve dans les deux premières citations de cette sous-série, toutes deux de Sugawara no Fumitoki, petit-fils de Sugawara no Michizane, grand lettré lui aussi, et émule de Oe no Asatsuna, vu tout à l'heure. Il n'a pas moins de 44 citations dans le Loeishu. Nous avons ici, à la suite, quatre citations d'un même poème, qui est un huitain de sept pieds. La première est la suivante. Alors, Attendez, je crois que... Voilà, c'est ici, n'est-ce pas ? Voilà. Grâce au four à cinabre, la voie est accomplie. La chambre de l'immortel est désertée. Sur le paysage de montagne, l'éclat de la lune décline. Shitsu peut désigner la chambre, mais aussi la cellule indépendante, l'ermitage. Nous comprenons que la chambre est désertée parce que l'immortel a atteint son but. L'Atanor, le four alchimique, a accompli son œuvre. Désormais maître du remède d'immortalité, l'ermite a quitté la dimension des hommes et la lune se couche sur un endroit désert. La citation suivante est bien sûr parallèle. Le lit de pierre est resté dans l'antre, balayé en vain par les vents. Munashiku Harao. La table de jade est jetée au bois dans la forêt. Un oiseau solitaire y chante. Le lit est le bureau. L'immortel est parti, il n'a plus besoin de son lit et il n'écrit plus. Désormais, au-delà des mots, il n'a plus besoin d'écrire. Et c'est l'oiseau, esselé après son départ, qui ressent encore le besoin de s'exprimer. nous avançons donc rapidement. Poursuivons avec ce troisième distique. Pêcher et prunier ne diront pas combien d'années ont passé. Je dois quand même faire remarquer quelque chose que l'on peut comprendre à partir du kundoku japonais si on le lit bien. Mais vous voyez bien que le mono iwazu, la suite, hado ikubaku ka kudenuru, c'est le complément de iwazu, n'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas traduire ici par pêcher et pommier et prunier ne parlent pas, mais ne disent pas combien. Pêcher et prunier ne diront pas combien d'années ont passé. Dans les volutes de brume, nulle trace de qui aura jadis ici séjourné. Les premiers mots du premier vers font allusion à un dicton célèbre, n'est-ce pas, que je vous ai donné ici, Tori mono iwazu, ou mono iwazare domo, shita onozukara, michi ou komichi onasu. Et le sens de ce dicton est facilement transposable au présent poème. Les arbres sont les derniers témoins de l'ultime transformation de l'immortel, et les hommes qui veulent s'inspirer de son exemple viennent naturellement à eux. Le sens de ce dicton, donc, étant pêchers et pruniers ne parlent pas, mais à leurs pieds se forme naturellement un sentier. Et de même que vers l'ermitage du mystique taoïste qui a disparu. Le quatrième et dernier distique finit sur une note d'espoir. Dès que Wang Xiao s'en fut allé, les nuages ont disparu à jamais. Mais tôt ou tard, soban, tôt ou tard, qui est traduit en japonais, itsuka, le son de l'orgue à bouche reviendra dans l'ancien vallon. Wang Xiao ou Wang Zhijiao, ou bien Oshikyo en japonais, est l'un des immortels les plus anciennement attestés, qui aurait vécu à l'époque des Shu, donc. Sa biographie est dans le Resenden. Je n'ai pas le temps de m'arrêter à cette première grande biographie des immortels taoïstes, n'est-ce pas, faite au 1er siècle avant Jésus-Christ, dont nous avons la chance d'avoir une traduction complète en français de Max Kaltenmark. Elle est résumée de façon trop abrégée pour que je vous la donne ici. Par Esai, mais je vous en donne quelques mots à partir du texte du Resenden, n'est-ce pas ? C'était le fils de l'empereur Ling des Zhou, que vous avez ici. Il s'adonnait à la pratique de l'orgue à bouche, et il pratiqua plus de 30 ans sur une montagne avec un maître taoïste. Jusqu'à ce qu'il dise un jour à quelqu'un qui était parti à sa recherche dans cette montagne, puisqu'il commençait à s'inquiéter, que sa famille devait l'attendre sur le sommet d'une autre montagne. La famille se rendit à la date prévue, qui était entre parenthèses le septième jour du septième mois, n'est-ce pas, donc l'époque de la fête du Tanabata. Et il apparut à sa famille, monté sur une grue blanche, comme de bien entendu, comme dit la chanson. Et ça, il ajoute un détail qui ne figure pas dans le Resenden. Il leur fit un concert d'orgue à bouche derrière les nuages, caché dans les nuages. Ce qui explique le détail du premier vers, n'est-ce pas, avec les Kumo Nagaku Tainu. Puisque ensuite, après avoir fait ce concert improvisé, Wang Zhijiao repart et n'est plus vu. Donc le nuage ici est encore une fois une métaphore de l'immortel. Et évidemment, ici, Wang Zhijiao, Oshiko, n'est qu'une métaphore de l'ermite disparu, réalisé, dont parle Fugawara no Fumitoki. Cette évocation des doshi réalisés se poursuit par un distique dont Esai nous dit qu'il concerne les inlin, les ermites donc, qui ne sont pas forcément des doshi. Nous pouvons les considérer comme un bref intermède qui prolonge l'atmosphère chinoise de la citation précédente sans reprendre le thème de l'absence. Et vous voyez que l'atmosphère chinoise, elle est superposée. C'est à chaque fois un Japonais qui va voir un ermite ou qui se croit au milieu d'immortels chinois alors qu'il est chez des Japonais. Alors ce distique est l'œuvre de Oe no Asatsuna, que nous avons vu plus haut, et dont nous avons dit qu'il était en quelque sorte l'émule de Sugawara no Fumitoki. Les deux étant regroupés, d'ailleurs leurs deux noms étant regroupés dans le nom composé Kan-go, n'est-ce pas, le Kan de Suga et le Ko de Oe. Alors voici ces vers. Sur le mont Shang se couche la lune, les barbes blanchissent à l'automne. Sur le fleuve Ying se forment les vagues, l'oreille gauche est purifiée. Pas facile à traduire de façon poétique. Barbe et oreille gauche. Comme on le voit, traduire le second vers en visant un énoncé poétique relève de la gageure. Nous nous contentons donc d'en conserver le sens. Le premier vers est une allusion au Shōzan Shikō. Shikō, n'est-ce pas, les quatre... ce qu'on peut appeler le caractère ko. Le caractère ko, c'est excusez-moi, je vais vous l'écrire ici. Les quatre vieillards chenus du mont Shang, qui étaient des lettrés de l'époque du premier empereur, Shin Shi Huangdi, n'est-ce pas, au IIIe siècle, qui voulaient fuir les troubles qui accompagnèrent la fin de la brève dynastie Qin. Vous voyez qu'on est à peu près dans la même période que ceux qui s'étaient réfugiés dans cette montagne, dans le texte de Tao Yuanming. La rivière Ying est un affluent du fleuve Huai, qui est l'un des fleuves entre le Yangtze-Kiang, n'est-ce pas, et le fleuve jaune, qui est le lieu de la célèbre anecdote résumée dans l'expression qui se dit en chinois, n'est-ce pas, Shuyo se lave les oreilles. Je vais vous la donner aussi. Kyoyu, Mimi o Arau. Ce Shuyo donc était un contemporain de l'empereur mythique Yao, n'est-ce pas, l'empereur Yao, qui lui avait proposé le trône. Et Kyoyu fut si indigné de la proposition qu'il alla se laver les oreilles qui avaient été souillées par cette proposition politique dans les eaux de la Huai. Et on sait que l'histoire continue avec l'épisode du camarade de Shuyu, qui s'appelle Chaofu, Soho en japonais, et de son buffle. Vous savez, le compagnon d'ermitage de Shuyu veut venir faire boire son buffle à l'étang. Il rencontre Shuyu au fleuve, il rencontre Shuyu qui s'en revient sans doute en grommelant. Il lui demande ce qui se passe et Shuyu lui explique la chose. Et Chaofu dit « Mais je ne peux pas faire boire mon buffle dans un fleuve qui est souillé par la proposition de l'empereur. » Donc, les allusions sont bien claires ici. Le seul problème, c'est pourquoi l'oreille gauche ? Et ça, il reconnaît que la question est difficile, Nangi. Et il répond en arguant que les manuels de médecine précisent que lorsqu'on se lave les oreilles, il faut commencer par la gauche. Bon, c'est vraiment, on sent le subterfuge du commentateur qui n'a rien à en dire. Après ces vers que l'on pourrait dire neutres, la série sino-japonaise revient à l'idée de l'ermite disparu, avec deux citations sino-japonaises qui closent l'évocation du passage à une autre dimension de l'adepte. Voici d'abord Kino Haseho, donc mort en 912, et il est donc 845-912, que nous avons déjà rencontré, et dont je rappellerai seulement qu'il fut le disciple de Sugawara no Michizane, et qu'il compila le Kankei Kōshū, donc le dernier recueil des poétiques de Michizane. Contentons-nous de dire, puisqu'elle ne pouvait pas entrer dans le hors-texte de ce poème, que le dernier vers de ce huitain évoque les noms de Chaofu et de Shuyu précédemment, n'est-ce pas, ce n'est pas ici, mais on voit bien qu'il y a une continuité donc non dite qu'il faut aller chercher dans le reste des poèmes pour les retrouver. Et il est donc directement lié au poème qui précède. Et voici ce qui est dit ici explicitement. La voix dans le torrent déserté, ce sont les sanglots des froids courants. L'hôte n'est plus dans les monts de jadis. Les nuages sont désolés. C'est donc toute la nature qui regrette le départ de l'ermite, que les poètes ne désespèrent pas cependant de revoir un jour. Et la dernière citation sino-japonaise, la 13e de la série, est encore une fois de Sugawara no Fumitoki. Nous n'entrerons pas dans les détails qui montrent ces liens de vocabulaire avec le poème précédent. Ils sont en tout cas assez évidents pour ne pas laisser de doute à ce sujet. Voyons donc directement ces deux derniers vers d'un quatrain. En passant par le rêve, yume otoshiteo tsujite, au profond de la nuit, la lune sur l'antre couvert de lierre, à la recherche de ses traces, à la fin du printemps, la poussière sur la porte au saule. Nous ne pouvons nous attarder sur les allusions du poème ni sur les circonstances de sa composition. Le titre parle de lui-même. L'auteur évoque les sages anciens qui ont tous disparu et sont désormais inaccessibles. Vous voyez, en pensant au loin, moi qui suis loin d'eux, au mode de vie fou des sages anciens de l'Antiquité. Il essaye de les rejoindre en rêve, comme cela a pu se faire autrefois, ou bien en se rendant à leur ermitage. La porte au saule est une allusion à Tao Yuanming, dont le surnom était Goryu Sensei, le maître aux cinq saules, puisqu'il avait cinq saules plantés devant sa porte. Et nous avons déjà vu les allusions à Tao Yuanming, Tao Yuanming dans cette série. Le point commun à toutes ces sept dernières citations, en dehors de la disparition ou de l'absence des ermites ou immortels, est d'ordre négatif. Il n'y a plus d'allusion au paradoxe temporel que nous avons vu si présent dans les six premières. Si nous reprenons la structure poétique en Kisho Tenketsu que nous avons évoqué tout à l'heure, et tout en prenant garde à ne pas tenter à tout prix de faire entrer dans cette grille l'ensemble de la série, nous pouvons au moins remarquer une courbe approchant ce rythme. Les sept citations traitant de la disparition des ermites pourraient correspondre à la troisième partie, le retournement dramatique, Ten, ici exprimé par l'angoisse ou la nostalgie du poète cherchant les sages d'antan. Le dernier poème de la série, l'unique waka de ces 14 poèmes, est donc la conclusion, Ketsu, Musubi. Voyons-le tout d'abord. Il s'agit d'un poème qui est consigné dans le Kokinshu. C'est le numéro 273 du Kokinshu, la seconde partie de l'automne. Il est précédé d'une notice qui n'est pas reprise dans le Roeshu. La notice est la suivante. En arrivant à travers les chrysanthèmes, Kiku Wakete, au palais d'immortels, Senkyu. Senkyu ni Kiku Wakete Itareri. Et il s'énonce en ces termes, le poème, n'est-ce pas? Nurete Hosu, Yamaji no Kiku no, Tsuyu no Mani, Itsu. Alors, Itsuka Tsutoseo Warewa Henikem. Tremper mon habit et puis sécher. Il faut rajouter habit ici. Tremper mon habit et puis sécher en l'espace d'une rosée, en l'espace d'une rosée, Tsuyu no Mani, d'une rosée de chrysanthème sur la cendre de montagne. Aurais-je donc 1000 ans en un instant passé? Ce waka de conclusion nous replonge dans l'univers magique du taoïsme, bien que ce soit dans un paysage japonais. Et le palais d'immortel Senkyu de la notice n'est certainement qu'un ermitage montagnard. Plus remarquable encore, ce poème est l'œuvre du maître de la loi, Hoshi Sosei, illustre poète de la fin du IXe siècle et fils d'un autre non moins illustre religieux bouddhique, Henjo, tous deux moines de l'école Tendai, qui connaissait donc bien le Sutra du Lotus. Est-ce un hasard que Kinto ait choisi un poème de moine bouddhique pour clore cette série dont le thème fondamental, donc le point d'orgue, est le caractère relatif du temps, son caractère malléable, sa diversité selon les individus qui le vivent? Nous avons vu que l'une des sources les plus répandues de ce paradoxe temporel n'est pas taoïste, mais bouddhique, au premier chapitre du Sutra du Lotus. Dans ce contexte, toute évocation en dehors du contexte bouddhique ne pouvait que le rappeler. Et nous comprenons sans peine que cette série prépare la dernière sur l'impermanence que nous verrons à l'avant-dernier cours. Je vous remercie pour aujourd'hui.